Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Quatre villes déplacées du conflit Mbole Lengola dans le site Konga Konga dans la province de la Tchopo plaident pour une assistance humanitaire. Ils ont adressé leur doléance hier au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. À Kinshasa, une grève des travailleurs de magasins des Chinois a débuté hier lundi. Plusieurs magasins ont fermé à cause du non-respect du paiement du SMIC, affirment ces travailleurs. Ils ont organisé une marche pour protester contre le non-respect du décret de la Première ministre. Notre invité est Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il s'exprime sur la campagne de lutte contre les abus de la SNEL que sa structure a lancée à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé du matin. Province de la Tchopo, les 4000 déplacés du conflit Mbole-Lengola se trouvant dans les sites de Konga Konga plaident pour une assistance humanitaire. Ils affirment passer des moments extrêmement difficiles. Ils ont adressé leur doléance hier au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. Ce haut responsable onusien a visité ce site de déplacés situé dans la commune de Kisangani. Selon lui, il faut mettre le paquet sur les retours de ces déplacés dans leur milieu d'origine. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Au moins plus de 4000 déplacés continuent à vivre dans ce site. Certains ont résolu de l'abandonner à cause des conditions de vie difficiles. En dépit de la disponibilité de l'eau potable et des latrines bien aménagées grâce à l'OMS, bien d'autres besoins humanitaires sont légion. Le coordonnateur de ce site, Albac Augustin Ouachia, les énumère.
Nous manquons de vivre et non vivre. Nous sommes abandonnés pendant 20 mois. La prise en charge de nos infirmiers, 4. La réhabilitation des tentes endommagées. 5. Prise en charge de la scolarisation de nos enfants.
Le coordonnateur résident du système des Nations Unies s'est personnellement rendu compte de cette triste réalité. À cet effet, Bruno Lemarquis encourage l'accélération de l'identification des familles des déplacés en cours par le FONAREV afin de diminuer la pression sur le site. En attendant, il promet de mener un plaidoyer bien que la tâche ne soit pas facile.
C'est assez difficile de faire le plaidoyer pour les besoins humanitaires dans la Tchopo parce qu'il y a tellement de besoins dans les provinces de l'Est. Mais on va quand même faire les efforts pour mobiliser les organisations pour qu'elles donnent un dernier coup de main avant, j'espère, le retour dans vos zones, les zones d'origine.
Avec la piste de résolution du conflit qui se dessine, les conditions vont être propices pour le retour des déplacés dans leur milieu traditionnel de vie, pense Bruno Lemarquis. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, dans les territoires de Masisi, des centaines d'enfants et femmes continuent à affluer dans les sites miniers, notamment celui de Kakombe à Rubaya afin de survivre. C'est entre autres la conséquence de l'absence prolongée des services étatiques miniers et organisations locales qui sensibilisent et veillent au respect de la réglementation dans les sites miniers. Ce constat est fait par un activiste des droits humains qui revient de la zone. Selon lui, des femmes et enfants de 10 à 15 ans sont exploités dans la chaîne de production de la cassitérite, notamment pour bénéficier d'une petite somme 10 ou 15 000 francs congolais journalièrement. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
Certains acteurs locaux et défenseurs de droits de l'homme qui ont visité ce site récemment expliquent que depuis l'occupation de cette zone par les rebelles du M23, c'est eux qui contrôlent également toute l'activité minière. Les services étatiques qui s'occupaient de la réglementation et le suivi des mesures telles que l'interdiction de la présence des enfants mineurs et les femmes enceintes dans les mines n'existent plus. Du coup, des centaines d'enfants issus des différents villages de Masisi se livrent à des activités minières sans aucun suivi. Toujours d'après ces activistes, cette forte présence d'enfants dans les mines justifie en outre le nombre élevé de ces derniers parmi les victimes de l'accident, notamment un éboulement enregistré mi-juin dernier dans le site de Kakombe à Rubaya qui avait fait des centaines de disparus. Notre source évoque également d'autres facteurs qui expliqueraient cet afflux des enfants dans les mines. C'est notamment la pauvreté occasionnée par la guerre et les déplacements des familles, la fermeture des écoles et l'absence des organisations locales locale qui sensibilisait régulièrement la population pour décourager l'exploitation des enfants dans les mines. Des cas de violation des droits humains sont également rapportés dans cette zone alors qu'il n'y a pas de mécanisme de plaidoyer à l'endroit des responsables de l'administration parallèle des rebelles.
À Bounia, la police de la MONUSCO a lancé depuis 2 jours une campagne de sensibilisation pour prévenir les abus et violences sexuelles, en particulier dans cette période des vacances scolaires. Une initiative qui vise surtout les enfants déplacés qui représentent au moins 60% des occupants des sites, mais aussi leurs parents, pour les inciter à redoubler de vigilance pour l'encadrement et l'accompagnement de leurs dépendants. Isaac Remoyope, reportage.
C'est aussi des déplacés de Salama situés derrière l'aéroport de Bounia que la police de la MONUSCO a donné le coup d'envoi de sa campagne de sensibilisation, une action de proximité axée sur la prévention des violences sexuelles, notamment à l'endroit des enfants. Environ 200 jeunes ont été sensibilisés lors de cette journée. Selon l'officier judiciaire de cette police, Assoumani Bonassoura, les vacances scolaire constitue une période à haut risque. Les enfants à divagation échappent souvent à la vigilance des parents, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux abus. Il est important que les parents prennent leurs responsabilités, a-t-il ajouté.
Les enfants ont droit à l'épanouissement. Ils doivent jouer, mais ils doivent savoir où jouer. Parce que si les enfants, par exemple, de sexe féminin, allaient jouer très loin, le risque de tomber dans les pièges de violeurs, des choses pareilles. Alors, une façon de les sécuriser, c'est aussi leur communiquer.
En plus des Salama, cette campagne va se poursuivre dans d'autres sites de placé de Bounia et ses environs, notamment à Kigons, un camp qui accueille à lui seul près de 10 000 enfants. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Revenons à Kinshasa où une grève des travailleurs des magasins des Chinois a débuté ce lundi. Plusieurs magasins ont fermé à cause du non-respect du paiement de salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, affirment ces travailleurs. Ils ont organisé une marche pour protester contre le non-respect du décret de la première ministre sur le SMIG. Les membres de l'intersyndicale demandent aux autorités de faire le suivi des décisions pour que cela soit respecté. Jean-René Tungi, membre de l'intersyndicale de donne plus d'explications au micro de Babel Mpongo, Massimango.
Il y a un problème ici, dans notre secteur. Il y a des Chinois qui n'ont jamais respecté même la loi. Il y a un décret du Premier ministre pour ce qui concerne les restements des salaires. Maintenant, nous étions avec les 5 dollars là. Auparavant, c'était 7 000 et quelques. Mais aujourd'hui, après Sainte, il y a maintenant restement des salaires. En principe, on devrait maintenant payer les travailleurs par rapport au taux du jour. Maintenant, chose grave, les Chinois ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé catégoriquement. Nous avons sensibilisé les Chinois pour essayer un peu d'augmenter les salaires. Ils ont refusé catégoriquement. C'est la raison pour laquelle les travailleurs eux-mêmes, ils se sont sensibilisés maintenant de faire la grève. Nous sommes des syndicalistes. Nous sommes là pour encadrer la grève des travailleurs. Bon, en principe, cette grève concerne le respect des SMIC. C'est seulement le respect des SMIC et puis respect des SMIC, quand on parle de respect des SMIC, on parle tout simplement des salaires. C'est comme ça.
Toujours à Kinshasa, la première édition de Let's Talk Business, entendez, parlons affaires, une initiative portée par l'entreprise événementielle KTJ Business s'est tenue dimanche dernier. Objectif, selon les organisateurs, sensibiliser les jeunes à la prise en charge personnelle et à l'indépendance financière. Reportage de Stanislas Dumi.
La salle était remplie de jeunes entrepreneurs désirés d'échanger sur le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Karine Pala, modéliste et entrepreneur, a profité de l'occasion pour encourager les jeunes filles à embrasser des métiers ainsi qu'acquérir leur autonomie financière.
J'ai dit toujours aux jeunes filles, même si vous n'avez pas le moyen peut-être de pousser les études plus loin, alors il faut penser à faire même un métier.
L'un des participants, Aristote Victor Inge, les salue cette initiative qu'il juge enrichissante tant sur le plan des connaissances que de l'expérience.
Les premières impressions sont les impressions partagées entre joie, bonheur, mais aussi soif, tout en remerciant les organisateurs d'avoir pensé à ce grand panel qui a réuni des entrepreneurs, surtout des jeunes.
De son côté, Joël Kala, initiateur de l'événement et CEO de KTJ Business, affirme vouloir continuer à sensibiliser les élèves et étudiants à l'esprit entrepreneurial.
Au-delà de la conférence, au-delà de ce cadre que nous venons d'avoir, nous comptons déjà toucher les secteurs éducatifs comme les écoles, les universités, pour aller donner déjà, allumer le feu à partir de cela.
KTJ Business prévoit par ailleurs de lancer dans les prochains jours des sessions de formation en décoration événementielle ainsi ainsi qu'en coaching entrepreneurial.
Au Nord-Kivu, pendant ces temps, le barreau provincial a saisi le procureur général près la Cour de cassation pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice dans la province. Dans une lettre datée du 19 juillet 2025, le barreau évoque les refus des magistrats du parquet général près la Cour d'appel du Nord-Kivu de rejoindre la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province. Le barreau parle d'une privation d'accès à la justice pour les populations et redoute une insécurité judiciaire qui pourrait pousser les justiciables à se faire justice eux-mêmes. Il demande au procureur général d'ordonner aux magistrats de reprendre leur poste. Maître César Paluku Fazila, bâtonnier du Nord Kivu, explique au téléphone de Martial Papimukeba.
On ne comprend pas pourquoi les magistrats du parquet général refusent de rejoindre leur ressort alors que ceux de l'auditorat supérieur, près la cour militaire du Nord Kivu, sont à Beni depuis le mois de février et travaillent normalement. Cet état de choses consacre la violation du droit d'accès à la justice. Tenez par exemple les jugements rendus par les tribunaux de grande instance de Boutembo et de Beni, ainsi que les tricom de Boutembo, ne sont pas examinés en appel, parce que le juge d'appel ne peut pas tenir ses audiences faute du ministère public. Des condamnés avec arrestation immédiate sont gardés dans les prisons sans possibilité de faire examiner leur cas en appel. Les avocats du Nord Kivu ont donc saisi le procureur général près la Cour de cassation afin qu'en tant qu'autorité hiérarchique des magistrats du parquet général près la Cour d'appel, leur ordonne de rejoindre la ville de Beni où se trouve la Cour d'appel provisoirement.
Au Maniema, 50 orphelins finalistes ont reçu une somme de 62 000 francs congolais pour couvrir leurs frais de participation à l'examen d'État qui approche à grands pas. Ces gestes généreux vient de l'ingénieur Georges Okanda Ungu. Ce dernier dit avoir souvent constaté que de nombreux orphelins, faute de moyens, ne peuvent se présenter à ces examens qui valident la fin des études secondaires. Un acte vivement salué par les bénéficiaires, leurs encadreurs ainsi que les responsables des écoles concernées. Reportage signé Florence Kizalunga.
Cette aide est perçue par ces orphelins comme une véritable manne tombée du ciel et qui avait perdu tout espoir de pouvoir passer ses examens. Ok, Fataki Henriette.
Je remercie d'abord l'ingénieur Giorgio pour sa volonté parce que beaucoup d'entre nous, on n'avait pas la précision qu'on va passer l'examen parce que on n'avait pas d'argent. Mais grâce à sa volonté, il nous a donné l'argent et nous sommes déjà sincères qu'on va passer les examens.
Cette aide est également saluée par le tuteur de ses élèves finalistes, Onyakol et Joséphine Anka. Cadre des orphelins.
Moi, j'ai vu avec deux orphelines. Je ne savais pas où je vais trouver l'argent pour payer les frais d'examen d'État. Mais aujourd'hui, Georges Okanda prend en charge mes filles. Nous disons merci.
Pour sa part, le représentant du donateur souhaite que ses enfants présentent l'examen d'État comme les autres. Jean Kalema.
Nous avons constaté dans les années antérieures, plusieurs orphelins ont manqué les examens d'État. Ils ont manqué les moyens. C'est pour cette raison, notre leader a donné les frais pour que ces orphelins ne manquent pas de participer aux épreuves d'examen d'État.
Sachez que, bien avant ces gestes de générosité, Georges Okanda avait déjà payé les frais de participation à la dissertation à ses orphelins finalistes. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Maniema encore, les agents du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, réclament le paiement de leur salaire. Ces agents dénoncent des arriérés de salaire allant jusqu'à 9 mois pour certains. Ils s'interrogent sur les raisons de ces non-paiements alors qu'ils produisent chaque mois. Ces derniers appellent à l'intervention du directeur général pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Écoutons Kassongo Tambwe Marcel, chef du secrétariat administratif de la direction provinciale du SAEMAP et porte-parole des circonstances au micro de Florence Kizalunga.
Vous avez ici par ma bouche le cri d'alarme du personnel du SAEMAP qui réclame à être payé. Cela va du mois d'octobre, depuis le mois d'octobre de l'année passée, de 2024, les agents n'ont pas été payés. Certains réclament 9 mois, d'autres 8, d'autres 4, d'autres 5. Les les agents de l'intérieur, nous n'avons pas de précision. Mais nous sommes tous impayés. C'est ce que nous voudrions, porter notre voix pour que les autorités nous entendent, nous écoutent et se mettent à l'œuvre pour la recherche d'une piste de solution durable. Le CMAP est un service qui jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Chaque direction se prend en charge. Pour ce qui nous concerne, nous, du Maniema, nous savons que nous produisons, les recettes sont perçues. Pour preuve, tous les services intervenants reçoivent leur quotité de chaque mois sur chaque production qui est faite. Mais nous ne savons pas nous expliquer pourquoi nous ne sommes pas payés alors que les recettes sont perçues tous les mois, toutes les semaines et tous les jours. Actuellement, nous sommes à plus de 300 agents. Pour en arriver là, nous avons commencé avec le directeur en interne plusieurs rencontres qui n'ont pas abouti à une solution.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du directeur provincial n'ont pas abouti.
Actualité internationale.
Le marché Sobtosi à Antsirabe, l'un des plus grands du continent africain, est en flammes depuis qu'un incendie s'est déclaré lundi 21 juillet en début de la soirée. Au cœur de la troisième ville de Madagascar, celui qui est aussi appelé marché du samedi fait face à des dégâts matériels considérables. Aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités pour l'instant et son origine est inconnue.
L'invité.
Notre invité est Jonas Tombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il s'exprime sur la campagne de lutte contre les abus de la SNEL que sa structure a lancée à Kinshasa. Jonas Tombela s'entretient avec Askin Zigbia Tayoro.
Monsieur Jonas Tombela, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lancer officiellement la campagne contre les abus de la SNEL. De quelle manière comptez-vous mener cette campagne?
La première mission, c'est d'abord de sensibiliser les victimes des abus de ce que la SNEL tentait de produire comme service, mais aussi de sensibiliser les citoyens, là où la SNEL a fourni le service de qualité, de payer selon la qualité des services qui lui a été fourni. Nous ne sommes pas seulement en train de faire pression sur la SNEL, mais aussi en train de dire là où la SNEL a bien fait, on doit le reconnaître et l'encourager. Et cette campagne pédagogique va aller dans le quartier. Nous avons mis en place des comités dans chaque district, dans chaque commune et dans chaque quartier. C'est ces comités qui vont relayer le travail, faire le travail de collecte de données sur terrain. Parmi les actions, il y a là où on n'a pas consommé l'énergie, on ne payera pas. Là où nous avons vu que le service n'était pas de bonne qualité, nous exigerons que nous puissions le régler de la manière dont il a été servi.
Alors, est-ce que votre initiative, vous en avez discuté en amont avec la SNEL ou c'est seulement une idée qui est venue sur base de plaintes des abonnés de la SNEL?
Nous sommes allés à la SNEL, nous avons rencontré le DG de la SNEL avec son équipe et nous avec notre équipe. Il nous a expliqué les problèmes que la SNEL éprouve dans la fourniture d'électricité à travers le pays. Nous nous sommes donné rendez-vous que dans les semaines qui vont suivre, la SNEL nous fera une note. À travers cette note, pour voir comment nous pouvons exploiter ce qu'il a soulevé comme préoccupation et mettre un courroie de discussion avec elle pour voir comment elle peut améliorer la qualité et certaines de ses plaintes, nous puissions voir dans quelle mesure, là où nous pouvons plaider, on mène le plaidoyer. Dommage pour nous, la lettre n'est jamais venue du côté de la SNEL. Nous nous trouvons maintenant dans le droit de nous défendre, nous les consommateurs qui sommes victimes.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait chevauchement par rapport à votre initiative? Parce que la SNEL, avec ses abonnés, deux fois, il y a des correspondances. Un abonné pense qu'il est maltraité, il peut aller au niveau du bureau de la SNEL se plaindre. Est-ce que ce schéma avec le vôtre, ce n'est pas un chevauchement?
Dans la salle, il y avait des gens qui avaient des lettres écrites à la SNEL depuis 2 ans, 1 année, sans suite. Les plaintes sont fournies par-ci, par-là. Nous avions même une échantillon. Même le jour où le directeur de la SNEL, nous avions fait exprès pour amener une école qui a écrit à la SNEL et qui n'a jamais eu la réponse. Donc, ils ont un service de contentieux lourd. Quand je n'ai pas consommé le courant, on m'envoie une facture indue. Je dois réclamer. Mais quand vous réclamez sans suite, on va la reprendre dans la facture qui va venir. Le travail que nous faisons de la population, c'est de l'aider aussi à ce que la SNEL devienne fiable dans ses services. Il y a même un service de médiation qui peut jouer un pont entre nous et la SNEL ou entre un client X qui n'a pas été satisfait et avec la SNEL et la possibilité de solution. Il n'y a pas chevauchement. Par contre, ce sont des services qui sont défaillants.
Est-ce que votre service sera payant?
nous sommes les humanitaires. Nous avons mis les avocats qui vont travailler gratuitement sur ce service. Et nous-mêmes, nous travaillons gratuitement. Il n'y a pas un bailleur derrière ça. Nous travaillons gratuitement parce que nous sommes portés par l'amour du pays. C'est ça aussi le patriotisme. Travailler pour que les services de l'État soient des services de bonne qualité. À toute personne qui voit cette action, peut venir au secours de ce collectif, ils vont se déplacer. On a des procès, ils vont dans les tribunaux, ils peuvent descendre sur le terrain pour faire le constat. Ça nécessite quand même des moyens. C'est un appel que nous lançons aux bonnes volontés du pays ou de l'extérieur du pays qui estiment que c'est une action citoyenne qui doit être accompagnée. Ils peuvent nous contacter, on verra dans quelle mesure on peut faire ce travail. Mais le service lui-même que nous offrons, il est un service gratuit.
Alors, pour terminer l'entretien, M. Jonas Tchombela, est-ce que cette initiative, ça va s'arrêter à mi-chemin? Comment vous pouvez la délimiter?
Notre problème, c'est que les services s'améliorent. Nous sommes conscients des difficultés de la SNEL, mais ce n'est pas une raison pour qu'on n'ait pas les services de bonne qualité. Donc, nous ne pourrons pas nous arrêter à mi-chemin. C'est pour cette raison que nous avons commencé par la phase pédagogique. Nous voulons que cette initiative ne soit pas notre œuvre, ça devienne l'œuvre de la population. Quand ils vont se l'approprier, ça deviendra plus notre travail. Et nous, on aura atteint le plus grand objectif, c'est que la population a appris à revendiquer ses droits. Et ça, notre objectif d'ailleurs.
Jonas Tchombela, je vous remercie.
C'est moi qui vous dis merci.
Fin de notre grande édition du journal Parler du Matin, coordonnée et supervisée par Polly Mouzalia et Alain Irung Mouching, et mise en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.